Et c'est une technique.
C'est Amstrad.
Voilà, bah les mecs, bah, c'était assez rigolo parce que tu vois toujours la vidéo, elle est toujours disponible sur YouTube. Il y a trois commentateurs qui commentaient justement plus ou moins les démos, donc c'était la catégorie old school. Le mec, il voit Amstrad, oh tiens, Amstrad, ouais, machin, ok, enfin bon. C'est tout juste s'il savait ce que c'était. Puis à la fin, le mec, il y en avait un, il était comme ça, il comprenait pas, quoi, parce que là, il y a des trucs. Ça dépassait l'entendement de ce que tu disais, ce qu'un 8 bits peut faire. Et après, c'est de la méga gruge. Hein, mais en fait, la machine permet de faire ce genre de truc parce que justement, elle permet de mapper la mémoire d'une façon très particulière. Ouais,
ce que
les autres font pas. Quoi.
Ouais, donc après, tu peux jouer avec ça justement. Ouais. Donc bah, si on a voilà. Une question sur l'Amstrad, on peut te
contacter. Oui, tout à fait. Voilà.
Et à l'AC, tu viens à chaque AC
ouais. Je fais l'AC, la RGC, normalement, et puis bah, c'est déjà pas mal, je pense. Hein.
Oui, d'accord.
Et tous les ans, normalement, il y a un meeting Amstrad, au minimum.
Oui, justement, c'est ça que j'avais posé comme question, parce que la communauté, tu dis que sur certains forums, donc il y a quand même un événement.
Tous les ans, alors il y a un événement qui s'appelle... Alors, il change de nom régulièrement, donc le seul truc que je peux dire, c'est qu'il se passe dans un petit patelin, enfin une ville de Normandie, dans la Manche, à Coutances.
D'accord.
Et c'est... En général, au mois de juin, et je ne sais pas si cette année ça aura lieu, mais et donc c'est un meeting donc purement Amstrad, mais bon après les autres machines sont bienvenues aussi hein, en fonction des années. À un moment, on avait un gars qui venait avec des Oric, qui est connu sur la scène Oric, qui s'appelle GD,
d'accord,
qui fait partie maintenant du groupe Defense Force, je crois d'ailleurs. Une ou deux fois, il y a des Allemands qui sont venus, alors on ne sait pas d'où ils sortaient. Il y en avait un qui était venu avec un micro, qu'est-ce que c'était le truc ? Un micro japonais, je crois, qui servait avec un tout petit écran, enfin un portable de l'époque.
Un MSX, quoi.
Ouais, c'était pas un MSX. Mais après, j'ai vu des articles qui parlaient de cet ordinateur-là. En fait, c'était un ordinateur qui était utilisé par les entreprises.
D'accord.
Notamment, j'avais vu un article d'une société qui louait des cassettes VHS. Qu'avait des détaillants, et en fait, le commercial, il venait avec le micro, il avait sur son petit ordinateur toutes les références de cassettes. Ouais. Je sais plus ce que c'était comme machine. Et c'est la première fois que j'en voyais un, et voilà. Et donc, bon, il y a eu un petit peu de tout. Et dans les années 90, il y avait beaucoup, beaucoup de meetings Amstrad. Après, ça s'est un peu calmé. Il y avait 2-3 événements par an, et là, malheureusement, il n'y a plus que.
C'est annuel maintenant.
Ouais.
D'accord. Mais par contre, justement, par rapport à ce que tu dis, logiquement, enfin,
et les pour finir, il y a toujours entre 20 et 40 personnes, quoi. Bon, après, on retrouve toujours un petit peu les mêmes. Hein. C'est comme ici, finalement, les têtes, la plupart, tu les connais. Quoi,
oui, mais... c'est un petit monde.
Mais l'Amstrad, c'est encore plus petit, mais bon, c'est vraiment le truc sympa si tu veux découvrir l'Amstrad. Donc bon, c'est à la bonne franquette, on va dire.
Mais par contre, tu disais oui que comme à la base c'était anglais, est-ce que justement là-bas.
Alors en Angleterre, il y a une scène Amstrad, mais les Anglais, c'est assez différent. La démo, ça les intéresse pas du tout. Il y a très très peu de démos anglaises sur ces PC, alors que français, il y en a eu beaucoup. Allemand aussi, ils étaient relativement. Ils étaient relativement bien boosté là-dessus. Ça s'est calmé à un moment, bizarrement. En France, ça n'a pas du tout marché, mais dans les années 92, 93, 94, tous les mecs qui avaient de l'Amstrad, ils achetaient des Archimedes.
D'accord.
Donc ils passaient sur Archimedes, donc ils restaient sur ces PC, mais bon, au fil de l'eau, ils faisaient des trucs sur cette machine qui est quand même sympa aussi, effectivement. Et c'est à peu près tout. Après, il y a quelques démo makers à droite à gauche. Un des premiers qui a fait des choses sur ces PC, c'était un Danois qui s'appelait NWC. Angleterre, bizarrement, il n'y a pas eu grand-chose.
Et justement, est-ce qu'il y a enfin, c'est compatible, c'est-à-dire que si par exemple tu vas en Angleterre, tu trouves des jeux...
C'est la même chose.
Oui,
hein,
voilà,
il n'y a pas de notion de PAL, NTSC, machin, voilà. De trucs. Alors, pour la petite histoire, l'Amstrad, ils ont essayé de le vendre aux États-Unis quand même. Ça n'a pas du tout marché. Et c'est grâce à ça que le 664 s'est fait dégager au bout de 6 mois. Parce qu'en fait, ils avaient étudié le 6128 a priori pour le lancement aux États-Unis. Quoi. Et comme ils ne vendaient pas, ils se sont dit bon, on va le vendre en Europe, donc ils ont arrêté le 664. Quoi.
Ah oui, donc c'est à cause de ça, de cette
politique en partie, je pense. Hein. Bon, puis après, la machine, elle est objectivement mieux quand même. Il y a plus de mémoire, le basique, il est corrigé, c'est plus costaud. C'est le 6128, c'est assez solide. Le 664, pour en trouver un qui fonctionne, c'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de soucis au niveau du clavier, notamment. Ils utilisaient une nappe clavier qui vieillit pas très bien dans le temps. Alors, on peut la réparer parce qu'en Angleterre, il y a une société qui en refabrique. Mais c'est la machine la moins fiable, on va dire.
Ah oui.
C'est pas la plus facile à trouver non plus, hein, d'ailleurs.
Oui,
c'est celle qui est la plus chère, mais c'est pas forcément la mieux. Après, au niveau design, elle est sympa, mais bon, si on veut débuter, on va dire, dans le monde de l'Amstrad, si tu veux un lecteur de disquette, il faut un 6128, et puis cassette, ça a aussi son charme, on va dire. C'est un 464, et normalement, ça...
Et là, c'est bon pour...
Voilà, c'est bon pour quelques années encore, on va dire.
Mais donc toi, est-ce que tu es allé justement en Angleterre pour, je sais pas, peut-être par rapport à...
Non, alors moi je suis bien grégaire, hein,
tu n'es pas allé...
Je suis jamais allé faire... Alors j'ai des collègues, notamment le gars qui organise les fameux meetings à Coutances, qui s'appelle Elliot.
D'accord.
Ils sont allés en Slovénie une fois, je crois.
D'accord.
Il y a des Français de temps en temps, mais dans les bonnes années de l'Amstrad, ils allaient en Allemagne, des choses comme ça, quoi. Mais ouais, non, moi je suis toujours resté en France. Et en Angleterre, il n'y avait pas de vrai, enfin, il n'y a pas de meeting tel qu'on les faisait en France.
D'accord.
Tu avais des conventions un peu comme ici finalement, où les gens venaient avec plein de micros différents, ils faisaient des échanges, de la vente d'occasions, mais il n'y avait pas de vraie scène. L'Angleterre, je pense qu'en gros, les mecs, l'idée c'était dès que tu étais programmeur, tu faisais des jeux, des utilitaires, mais tu vendais ton truc, quoi.
D'accord.
C'était pas « Ah, je vais faire une super démo pour épater la galerie », alors que nous, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment « J'essaie de pousser la machine pour montrer aux autres que je suis le meilleur ». Après, commercialement, tout le monde s'en foutait, quoi. C'était pas...
Oui, c'était...
Il y a quelques démo makers qui ont réussi à la fin de la carrière commerciale de l'Amstrad à faire des jeux.
D'accord.
Notamment un gars qui s'appelait ELM Soft, qui était autrichien, je crois.
D'accord.
Enfin, j'en suis sûr, même. Il a sorti des jeux pour le coup qui étaient excellents. Il a fait Préhistorique 2 sur Amstrad, des choses comme ça, quoi. Mais c'est un peu plus une exception qu'autre chose, quoi. Alors qu'en Angleterre, les mecs, dès qu'ils codaient, ils faisaient des jeux, quoi.
D'accord.
Il y a pas très longtemps, j'ai acheté un bouquin sur l'histoire d'un éditeur anglais qui est super connu, qui s'appelle VS Gold.
Oui, c'est ce que tu disais au début, là, c'était tout ce qui était un peu arcade, non?
Ouais.
Voilà.
Et VS Gold, en fait, c'est... Alors, le bouquin est vraiment intéressant parce que c'est pareil, c'est vraiment le gars qui dit « Tiens, si je vends des logiciels, les mecs, ils me lâchent, ils les achètent. » Donc c'est un type en Angleterre qui a commencé à importer des jeux américains, donc d'où le titre VS Gold. Et au bout d'un moment, en fait, il a développé une activité aussi de production de logiciels en Angleterre.
D'accord. Donc c'est lui qui faisait.
Alors lui, il sous-traitait en fait. Hein, il n'avait pas forcément comme des boîtes style Océan. Il n'avait pas au début, tout du moins, un team de programmeurs qui développait des jeux, des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin-là, c'est qu'à la fin du bouquin, il y a la liste de quasiment tous les programmeurs qui ont participé à des jeux VS Gold.
D'accord.
Et là, on voit qu'à chaque fois, c'est Toto, j'ai 15 ans, ouais, j'ai acheté un ZX80, je me suis mis à programmer, et puis ils faisaient tout de suite des jeux, quoi.
D'accord.
Des jeux qui vendaient tout seuls, et après, finalement, c'est assez rigolo, parce que le bouquin, il permet de voir aussi que en Angleterre, je pensais que c'était pas comme ça, il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient des connexions les uns avec les autres. Océan, US Gold, Gremlin Graphics, c'était un peu la même mouvance, quoi. Donc c'est déjà, on va dire, un tiers de la production de en Angleterre. Et on voyait qu'en fait, les mecs, c'est un milieu où ils se connaissaient plus, plus ou moins, quoi. C'est plutôt rigolo, quoi. Le bouquin, il est vraiment intéressant pour ça. Ouais.
Et donc il est sorti quand, ce livre?
Ça doit faire déjà 3-4 ans, hein, je
D'accord.
pense. Donc, il doit toujours être disponible. Alors par contre, c'est en anglais, hein, mais bon,
D'accord.
désolé.
Non, mais comme ça, au moins, c'est intéressant, parce que ça permet de voir un peu.
Ouais, ouais. Puis franchement, il est vraiment bien. Et notamment, alors j'ai appris des trucs. En France, à un moment, je comprenais pas. Je l'avais pas acheté, le jeu, mais bon. J'avais récupéré un jeu de foot qui s'appelait Mexico 86.
Oui.
Donc, qui était sorti bizarrement pour la Coupe du Monde du Mexique. Et le jeu, quand j'ai lancé, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'était un jeu qui avait déjà été édité un ou deux ans avant par un autre éditeur qui s'appelait Arctic. Et je me dis, je comprends pas, putain, c'est le même jeu, quoi. Et en fait.
Le jeu, c'était Arctic.
Le jeu d'origine, ça devait être World. World Cup Soccer.
World
Cup chez Arctic. Et deux ans après, en fait, ils ont fait Mexico 86. En fait, ils ont rajouté 2-3 merdes, mais c'est le même jeu, quoi.
J'ai compris, oui.
Et là, je m'étais dit, mais putain, pourquoi ils ont fait ça? Et en fait, là, dans le bouquin, ils t'expliquent pourquoi ils ont fait ça. Alors, en France, ça n'avait pas été médiatisé. En Angleterre, je pense que oui, ils avaient dû en parler à l'époque. Et en gros, c'est que les mecs chez US Gold, ils avaient acheté la licence football Mexico 86 et ils n'avaient pas de jeu de foot. Donc ils avaient demandé à leurs potes d'Océan, plus ou moins, mais de faire un jeu de foot, parce qu'ils avaient sorti un truc qui s'appelait Match Day à l'époque, qui était un bon jeu de foot. Et ils pensaient que c'était réglé, que les mecs d'Océan ils s'occupaient de tout, puis en fait les mecs ils avaient rien fait du tout. Donc on va dire à 2 mois de la Coupe du Monde du Mexique, ils se sont retrouvés avec la licence et pas de jeu.
Ouais, donc ils disaient c'est dommage.
Donc ils ont commencé à faire le tour de tous les éditeurs qui avaient sorti un jeu de football. Et ils sont allés chez Arctic et ils ont vu le mec, ils lui ont dit ouais. Donc le gars il leur a vendu le jeu.
D'accord.
Et après, en le retapant un peu, mais du coup, le gars il avait. Enfin, c'est pire que ça, c'est qu'en gros, en plus, ils ont vendu le jeu et l'éditeur qui leur avait filé, il n'avait plus le droit sur les sources. Donc après, ils se sont pris un procès par le mec qui avait racheté les sources pour 100 livres. Et parce qu'ils avaient utilisé les sources du jeu alors qu'ils n'avaient plus le droit de les faire. Ils se sont ramassés, enfin bon, au final,
ils ont
limite premier du pognon sur le truc, quoi.
Oui, alors qu'en fait...
Et en plus, alors là, ils se sont pris des notes mortelles, parce que dans les revues anglaises, les mecs, ils ont tous dit « Mais c'est quoi ce jeu ? C'est le truc qui est sorti il y a 2 ans, quoi. »
Oui, c'est ça.
Ça n'a pas fait illusion. Ils n'avaient pas vraiment assez retouché le jeu pour que ça ne se voit pas, quoi. Donc ils s'étaient pris. Alors ils avaient tous dit super packaging, c'est vrai que le packaging, tu as une belle boîte, tu as un super poster avec tous les matchs, il y a même une espèce de badge, tu peux coudre sur un t-shirt Mexico 86.
Ah oui,
la totale, quoi. Donc ils avaient tous dit le packaging c'est bien, mais alors le jeu c'est de la grosse merde. Et ça, moi j'avais jamais compris pourquoi ils avaient fait ça, quoi. Et en France, il n'y avait pas d'article dans les journaux de l'époque qui avait expliqué justement ça, quoi.
Mais c'est vrai que par exemple, quand tu regardes vraiment, si tu mets par exemple deux Amstrad l'un à côté de l'autre, tu mets ce jeu ou que...
Ah bah tu mets les deux, tu fais pas la différence. Alors peut-être qu'ils ont modifié l'intro, un peu les panneaux.
Voilà.
Ouais, l'intro. Alors l'intro, il y a une belle page écran,
Mexico
86. Ils avaient rajouté un deuxième petit jeu qui est assez pourri aussi. C'était un simulateur de tir au but, je crois, qu'il n'y avait pas dans le premier. Mais c'est à peu près tout, quoi. Et bon... Mais après, tu comprends pourquoi, quoi. Le mec, il a dit, ok, on sort le jeu, on annule pas, quoi. Ils préféraient sortir de la merde que pas sortir le jeu.
Oui, parce qu'il fallait qu'ils rentabilisent.
Et,
voilà.
Et ouais. La boîte avait une mentalité assez particulière, parce qu'en gros, ils sortaient des jeux à l'appel. Ils passaient des accords. Le match, en fait, c'était de passer des accords avec, au début, les distributeurs, les éditeurs américains, pour empêcher que d'autres...
Ah oui, ils voulaient avoir
licencié. Donc en fait, ils éditaient. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à la fin, ils avaient quand même une bonne part du marché. Ils éditaient des jeux, ils savaient pertinemment que c'était de la merde, mais ils faisaient pour avoir les autres bons jeux qui sortaient. Ils ont commencé comme ça, et après, ils se sont pris une bonne dégelée, parce qu'à un moment, il y a un autre éditeur avec qui ils étaient plus ou moins en guerre, un éditeur anglais qui s'appelle Elite. Et ils avaient sorti en même temps Commando, Bomb Jack, donc des jeux bornes d'arcade japonaises. Et là, les autres, ils n'avaient pas percuté, quoi, que ça pouvait se vendre aussi. Et après, la guerre, ça a été ça, quoi. C'était décrocher toutes les licences japonaises.
D'accord.
Donc, Capcom, ils s'étaient entendus, je crois que c'est Océan qui avait tout ce qui était Sega, je ne sais plus d'ailleurs.
Oui, il y a eu des...
Ouais, si c'est plus Sega, je crois. Enfin bon, ils avaient négocié avec les Japonais pour justement essayer d'empêcher justement le fameux Elite de récupérer des licences qui marchaient pas mal, quoi. Et à cette époque-là, en fait, les mecs, ça devenait vraiment de l'industrie, quoi, hein, c'était hallucinant, quoi.
Oui, parce que si tu dis qu'ils achetaient par paquet, c'est vrai que c'était vraiment au kilo, quoi, c'était...
Et les jeux, ils les vendaient à des quantités relativement impressionnantes, quand même. Hein.
Et après, les prix, est-ce que ça ressortait sur le prix aussi ou
ils étaient relativement... Alors eux, c'est marrant, parce que c'est pareil, dans le bouquin, ils expliquaient qu'en Angleterre, les jeux, tout du moins, ce qui devait être jeux cassettes, c'était vraiment pas cher du tout, quoi. Et eux, ils avaient décidé de doubler le prix des jeux parce qu'ils disaient que c'était pas rentable, quoi, en état. Donc les jeux, et après ils restaient à des tarifs honnêtes, hein, ils étaient autour de 9 livres, donc ça faisait allez, 80-90 balles, quoi. Mais avant, apparemment, il y avait des séries de jeux, c'était 5 livres ou des trucs comme ça, quoi.
D'accord.
Et après, bon, un jeu cassette pour 90 francs, c'était pas encore catastrophique, quoi. Et c'était parmi les premiers aussi à faire des compilations. Ils ont vendu par paquet de 50 ce qu'ils appelaient les compilations The Soul de Million, que tu retrouves sur tous les formats de l'époque, hein, Spectrum, Commodore 64, Atari, Amstrad. Et voilà, bon, ça a toujours été une boîte qui était, qui essayait toujours de trouver des trucs pour dominer le marché, quoi. Mais le bouquin est vraiment super intéressant, quoi.
Bah, comme ça, je mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Bah, donc, merci Tom et Jerry.
Bah, écoute, merci. Je sais pas si ça va motiver des gens pour faire du CPC.
Si, je pense que là, tout ce que tu as dit sur l'Amstrad, notamment il y a plein de spécificités que moi je connaissais pas du tout parce que je suis plus console. Ouais. C'est vrai que je te dis, je l'ai connu, mais vraiment très brièvement par un ami. Je crois qu'on avait parlé sur un Indiana Jones, mais après j'ai pu.
Indiana Jones, voilà. C'est pas le meilleur jeu, Amstrad. Voilà.
Donc c'est sûr que voilà, moi j'avais encore le souvenir de la durée de chargement, du temps de chargement.
Oui.
Et c'était sympa aussi. C'était
mais bon, comme toutes les machines en fait, qui ont eu un certain succès, il y a des bons jeux, bon, il y a pas mal de bouses, hein,
oui.
Faut pas rêver, mais.
Comme tout.
Et alors tu me disais, c'est quoi le meilleur jeu sur Amstrad? Je t'ai dit que c'était pas forcément une bonne question. Mais en tout cas, assez récemment, il y a un jeu qui est sorti, enfin il y a deux d'ailleurs. Il y a un jeu de Mahjong qui est vraiment super joli, avec un mode graphique assez bizarre. Le même programmeur, donc, qui s'appelle Targan, il a sorti un jeu d'aventure qui, pour moi, pour le coup, est vraiment le meilleur jeu d'aventure qui est sorti sur CPC. Il est sorti il y a peut-être déjà 3-4 ans. Ils en ont fait une édition physique, mais c'est vraiment un super jeu. Quoi. Franchement, moi, les jeux d'aventure, je suis plutôt analyseur syntaxique, tout ce qui est icône, machin, ça.
C'est pas trop ton truc.
Sur Amstrad, j'ai toujours trouvé que c'était pourri, c'était trop lourd, ça prenait du temps. Et là, il a réussi à faire une interface contextuelle qui est vraiment. Qui est pas intrusive, qui est vraiment hyper sympa, quoi.
D'accord.
Après, le jeu, bon, le scénario, c'est du classique, tu arrives sur une base spatiale, tout le monde est mort, enfin, classique, quoi. Mais franchement, super bien fait, quoi. Celui-là.
Par contre, est-ce que tu as vu ce que tu parlais de YouTube tout à l'heure? Il y a des vidéos de ce jeu?
Ah oui, bah, sur les jeux CPC, il y a des vidéos quasiment sur tout. Hein. Il y a un anglais qui s'appelle Metro, ou Metro quelque chose, qui fait pas mal de tests de jeux. Ils sont assez intéressants. Quoi.
Ok, bah, merci beaucoup.
Voilà, voilà. Bah écoute, puis, donc, à ta disposition pour une prochaine
okay.
Merci l'interview, beaucoup. Le retour.